Luc, je suis pas sûr que c'est la bonne journée pour dire aux gens qui ont des quatre roues motrices qu'ils devraient pas en avoir. L'Association des véhicules électriques du Québec propose de relier les rabais gouvernementaux à l'achat d'un véhicule électrique neuf au coût d'immatriculation additionnel pour des véhicules de forte cylindrée. Autrement dit, pour payer des subventions à ceux qui achètent des chars électriques, on surtaxerait les gens qui ont des fortes cylindrées. On a au téléphone Simon-Pierre Rioux, qui est président de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour, Monsieur Rioux. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Les gens qui ont entendu juste la manchette tantôt m'ont déjà écrit « Hey, je paye déjà des pénalités assez lourdes via mes taxes sur l'essence. » Ils vont pas me rajouter nos taxes, là?
Ben non, parce qu'elle existe déjà, cette taxe-là. Ils l'ont déjà payée, puis ça fait des années qu'ils la payent. Ça, c'est une taxe sur les fortes cylindrées, puis ça existe pour les moteurs de 4 litres et plus. Donc, on parle de 50 $ pour un 4 litres. Si on est à 5 litres, c'est un 100 $. Puis des véhicules qui ont un 6 litres et plus, c'est un 200 $. Puis ça fait des années que la SAC le perçoit lors de l'immatriculation. Donc, c'est pas qu'on va aller taxer, c'est que cet argent-là, à place de l'utiliser pour transport en commun et d'autres infrastructures de transport, ça serait utilisé pour les véhicules électriques. En contre-échange, l'argent qui est utilisé par le Fonds vert, où le nouveau gouvernement veut l'utiliser uniquement pour ou principalement pour les transports en commun, mais qu'il est pigé directement dans le Fonds vert, puis qu'il laisse ce bonus-malus-là géré par la SAC. C'est une façon de faire, juste pour que ça ait un peu plus de transparence. Donc, il n'y aurait absolument rien de différent et surtout pas des coûts additionnels.
OK. Donc, ce que vous voulez, c'est que la pénalité qu'ils payent déjà serve à financer ceux qui achètent des chars électriques plutôt que des véhicules à essence à grosse puissance.
Exactement. Donc, la personne qui a en ce moment un véhicule utilitaire qui a un gros moteur dedans, alors qu'il aurait pu choisir un plus petit moteur, il paye déjà son 50 $ ou son 100 $. On se dit, pourquoi pas l'utiliser pour que la personne qui prend cette décision-là se rend compte que, ben, tu sais, il y a une logique derrière le fait que si je veux polluer plus, ben, je paye pas. Puis ça va permettre peut-être à mon voisin d'acheter un véhicule électrique, puis lui, il va polluer moins. En bout de ligne, ça va diminuer ce que le gouvernement veut, diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qu'on fasse tous notre part. C'est juste une façon plus transparente de le faire. Donc, si quelqu'un, on revient au concept de l'utilisateur-payeur autrement dit.
Mais vous ne pensez pas que le jour où les véhicules électriques seront plus conviviaux, c'est-à-dire avec une meilleure autonomie, seront moins chers, seront donc accessibles à des gens de la classe moyenne qu'on trouve un peu partout au Québec, pensez pas que c'est ça qui va faire en sorte que les véhicules électriques vont pénétrer le marché, pas simplement pénaliser celui qui achète pas le véhicule électrique. C'est là qui se crée, d'après moi, une sorte de quasi-opposition qui devient parfois presque émotive dans la société.
Ouais.
Pensez pas qu'il faut pousser pour que ces véhicules-là soient mieux, se coûtent moins cher, et au lieu que d'arriver puis de dire, t'as acheté un 4x4, ah ah, là, vous allez payer.
Absolument, regardez, je suis d'accord avec vous. Je trouve que dans le meilleur des mondes, là, il n'y en aurait pas d'incitatif. Tout comme il n'y aurait pas d'incitatif ou de diminution du prix du diesel pour les autobus scolaires, qu'il n'y aurait pas d'argent, des tax breaks, comme on appelle, pour les compagnies pétrolières qui exploitent du pétrole depuis 100 ans, qu'il y a des milliards de dollars qui leur sont fournis à chaque année encore. Pourquoi? Pour faire gonfler leurs bénéfices. Ça n'a pas d'allure.
Ouais,
donc oui, si on pouvait tout avoir un level playing field, que tout le monde n'ait plus d'incitatif, n'ait plus rien de ça, ben on serait gagnant. Tout le monde serait gagnant. Peut-être que le prix de l'essence serait comme pas mal plus cher aussi. Mais ce qui arriverait en bout de ligne, c'est qu'on choisirait un véhicule qui coûterait moins cher.
On s'entend, M. Lerigno.
Une petite affaire, c'est juste que le véhicule électrique coûte plus cher à produire en ce moment parce que, disons, chaque manufacturier en produit peut-être 30 000, 60 000 par année. Aussitôt qu'on va commencer à en produire en millions d'exemplaires, puis déjà, si on le voit avec la compagnie Tesla, qui en produisent beaucoup plus que tous les autres manufacturiers ensemble, donc les prix ont commencé à baisser. Et puis même Volkswagen, à partir de 2021, vont commencer à produire pour atteindre les millions d'exemplaires. là, le prix va diminuer beaucoup. On se posera plus la question, et on va enlever cet incitatif-là financier, puis éventuellement, ben, on pourra l'éliminer complètement. Ce qui va arriver, que l'argent qui va rester sur l'immatriculation des véhicules polluants, ben, on va l'utiliser pour d'autres choses, peut-être pour la santé, parce que ça coûte cher au système de santé aussi, hein.
Actuellement, là, quand les gens font le plein d'essence, ils payent une surtaxe pour notamment entretenir les routes. Les propriétaires de voitures électriques, ils payent pas pour l'entretien des routes. Donc, les gens qui ont des voitures à essence estiment qu'ils payent déjà pas mal plus que vous pour utiliser des infrastructures que vous ne payez pas.
Absolument, vous avez raison. Puis ça, c'est en train de changer aussi. Parce que c'est un genre de bonus, un peu comme dire j'ai le droit d'utiliser la voie réservée pour me rendre au travail. Donc, c'est un avantage social qui durera pas très longtemps. Fait qu'on en profite en attendant. Puis, il y a déjà des endroits dans le monde qui se sont dit, bon, mais regarde, les véhicules ont réussi un certain taux de pénétration dans le marché. Donc, on enlève les avantages sociaux comme le fait de pouvoir rouler dans une voie réservée parce qu'à un moment donné, ça va être 90-100% de tous les véhicules qui ont une voie réservée. Ça aurait plus d'allure. Même affaire avec les avantages comme ne pas payer les taxes sur les routes. Ça va changer ça aussi. Puis tous les automobilistes vont payer leur juste dû, simplement parce qu'il faut les garder en bon état, ces infrastructures-là. Un véhicule électrique va maganer les routes autant qu'un véhicule à essence, là. Donc, c'est juste la simple logique de fait qu'on veut aussi payer notre part.
Mais êtes-vous conscient du clivage entre les gens qui vivent en milieu urbain, c'est-à-dire les deux grands centres urbains du Québec, Montréal et sa région, Québec et sa région? Êtes-vous conscient que dans les régions, la situation se présente pas de la même façon? La question de l'autonomie des véhicules est extrêmement importante pour eux. La présence des bornes de recharge est pas encore là, enfin très peu. Mm-hmm. On voit pas le jour où ça va devenir aussi répandu que dans les centres urbains. Alors, ça contribue à créer un clivage énorme.
Pas vraiment, en fait, parce que quand on regarde le kilométrage des gens qui habitent en région, dans les petits villages et tout ça, leur kilométrage là, est vraiment plus bas par année que ceux qui habitent en ville. Parce que ceux qui habitent en ville, souvent, ils sont en banlieue. Ils vont faire 25, 30, 40 kilomètres par jour, aller un autre 40 kilomètres, retour, pour se rendre au travail et revenir. Alors que ceux qui sont en banlieue, qui habitent dans des petits villages, ils habitent à 3, 4 kilomètres du travail.
Pardon?
Ils font très peu de kilométrage.
Pardon, monsieur, excusez-moi, oui? Là, j'ai vécu pendant des années dans un village et l'immense majorité des gens de mon village travaillaient soit à Alma, soit à Chicoutimi, ce qui leur faisait 75 kilomètres aller et retour matin et soir. Excusez-moi, je n'ai pas vécu dans le même village que vous, moi, là.
Vraiment pas. Ça a l'air que non, mais moi, ce que je vous raconte, c'est vraiment basé sur des statistiques.
Puis, la fin de semaine, ils montaient dans les Mont-Valin, ça va très mal en voiture électrique.
Ah ben nous autres, tout ça, on espère vraiment qu'il y ait beaucoup plus de véhicules qui soient en traction intégrale. En ce moment, il y en a quelques-uns. La plupart sont hybrides branchables qui sont en traction intégrale. On espère que les véhicules qui sont 100% électriques vont devenir à traction intégrale aussi, vraiment, parce que c'est encore meilleur. Tu as un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Ça donne vraiment une bien meilleure traction. Donc, ça va venir tout ça. Mais juste pour revenir à ce qu'on mentionnait au niveau du kilométrage, c'est vrai que quand on est en région, souvent, on va aller faire du magasinage, puis on monte à Québec ou on va monter à Montréal pour faire ces affaires-là. Fait que le kilométrage local est court. Puis le kilométrage pour faire des longues distances plusieurs fois par année, ben il va être un petit peu plus long, mais ça s'équivaut aussi moins que ceux qui habitent directement dans les grands centres.
Moi, je peux vous dire, j'ai toujours fait 35 000 km par année, puis depuis que je suis à Québec, j'en fais moins de 10 000.
Oui, puis les transports en commun qui sont payés par tous les Québécois.
Mais là, vous voulez réduire le financement des transports en commun en prenant la taxe sur les grosses cylindrées pour les donner aux électriques.
Pas du tout ce que j'ai dit tantôt. C'est qu'il faut vraiment... On fait un échange. L'argent qui allait pour le transport en commun va simplement le prendre dans le fonds vert. Puis ça, c'est pas moi. Là, ça, c'est le gouvernement qui a mentionné qu'on devrait beaucoup plus financer le transport en commun via le fonds vert. Donc, on va juste faire un échange. Ça va être complètement transparent. C'est une façon de faire comme une autre, simplement pour avoir une meilleure transparence, puis juste avoir une meilleure logique par rapport à dire que s'il y a déjà une taxe sur les grosses cylindriques, ben que cet argent-là aille pour des véhicules électriques. C'est un équilibre dans la société.
J'ai un auditeur qui dit, coudonc, eux autres, leur problème, c'est qu'ils veulent faire un bébé en moins de 9 mois. C'est dans le fond, quand les voitures électriques vont être prêtes, on va les acheter.
Belle comparaison.
Ouais, ben regardez, en ce moment, on est en 2019, puis on est rendu à la deuxième génération de véhicules électriques. Ça, des batteries qui vous donnent 400 km d'autonomie. Ce qui est déjà quand même très bien.
Mais quand ça va être mûr, on va les acheter. Moi, ma prochaine, elle va être probablement électrique.
Quand ça va être... Ça change vite.
Pourquoi vous avez besoin de pousser? Ça va arriver. Non?
Ce qui arrive en ce moment, ben, vous avez peut-être raison. Peut-être que ça va arriver, mais d'une manière ou d'une autre, s'il y a des ventes, on continue à accélérer l'industrie, on met de l'énergie à faire de la recherche sur le développement pour des batteries plus efficaces qui profitent à tout le monde. Ça veut dire que votre cellulaire va durer plus longtemps, votre iPad va durer plus longtemps, les véhicules électriques vont faire plus d'autonomie, mais il faut qu'il y ait un revenu derrière ça pour le faire. En Europe, c'est différent parce qu'en Europe, c'est style, si tu as un véhicule à diesel, on veut pas t'avoir dans le centre-ville de notre ville, soit payer des coûts supplémentaires absolument faramineux. Alors qu'en Amérique du Nord, on a un peu plus une attitude de laisser aller, même si cette pollution se promène à travers la planète. Fait que, à un moment donné, il faut juste être capable de être un peu plus conséquent par rapport à cette pollution-là, puis s'en occuper.
J'ai des auditeurs qui ont des objections à votre idée, là. Ils disent d'abord, les voitures électriques, c'est pas sûr que c'est ça qui va s'imposer. On va bientôt essayer des voitures à hydrogène. Donc, vous poussez peut-être vers une technologie qui risque de pas être celle qui va s'imposer sur tout le globe. D'autant plus qu'aux États-Unis, ils sont 380 millions, quelque chose du genre, et qu'ils vont avoir... En fait, il y a la Californie, pour des raisons de smog, qui insiste beaucoup sur la voiture électrique. Mais pour le reste du pays, ils sont loin de l'avoir adoptée, la voiture électrique. Puis, ils sont un peu plus importants pour le marché manufacturier automobile que nous autres.
Ouais, mais le marché le plus important au monde, c'est la Chine. Puis eux autres les achètent par millions d'exemplaires. Puis ils sont en train d'électrifier tout leur transport, comme les autobus de ville, etc. C'est tout électrique. Le transport longue distance, c'est en train de devenir électrique. Donc, plus gros marché, la Chine. Puis en Europe aussi, sont en train de pousser énormément. Les États-Unis, ils ont Trump. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sans blague.
Vous nous forceriez à acheter des chars électriques et continuerez à avoir Trump, comprenez-vous?
On va regarder, vous avez parlé de l'hydrogène, ça je veux l'adresser parce que je trouve ça intéressant, c'est un bon point qu'il y a d'autres technologies, il y a pas juste les technologies de véhicules à batterie, il y a les véhicules à hydrogène aussi. Les véhicules à hydrogène, on va le regarder, ils coûtent plus cher, faire le plein d'hydrogène coûte plus cher que l'essence. En bout de ligne, ça prend 3 fois plus d'électricité pour faire 100 km parce qu'il faut que tu transformes ton eau en hydrogène. Ça prend 3 fois plus d'électricité pour faire de l'hydrogène, pour faire avancer ton véhicule de 100 km que si tu mets directement l'électricité dans une batterie. Donc, tu dépenses 3 fois plus d'énergie pour le faire avancer de 100 km. Il coûte plus cher. Le seul avantage, c'est quoi? C'est que tu fais le plein plus vite. Mais en ce moment, les batteries, on en a au point où dans quelques années, on parle 2-3 ans, déjà en Europe, ils sont en train de le tester. La première qui va sortir, c'est la Porsche Taycan, qui prend du 350 kW de recharge. Ça veut dire que ta recharge, là, à 80%, se fait en 10 minutes. Environ le temps du plein d'essence.
OK. C'est puis fou, elle va coûter combien, la Porsche machin chose, là?
Je pense que c'est 80 000 US. Ce qui est pour une Porsche, c'est pas pire, mais c'est que Porsche appartient à Volkswagen.
On s'entend-tu que la plupart des gens, ils ont des petits véhicules, qui sont,
C'est pas tout le monde qui achète des Porsche.
Tu sais, on achète des véhicules à 25 000 $
Ben oui.
Alors, tant que
c'est pour ça que je mentionnais.
Tant que vos chars électriques vont coûter cher de même, là, ce sera juste pas accessible.
On veut pas ça. On veut que les véhicules, justement, que toute cette technologie-là de Porsche arrive chez les autres véhicules de Volkswagen. Puis même Ford est en pourparlers pour reprendre cette plateforme-là. Donc, c'est de la technologie qui fait qu'éventuellement, toutes les batteries vont se recharger à cette vitesse-là.
D'où l'argument. Attendons que ce soit prêt, puis là, on va tout l'acheter.
Attendons que ce soit prêt, oui.
Mais souvent, ce qui va arriver, c'est un peu comme Tesla fait en ce moment. Ils ont créé des véhicules qui coûtaient très cher au début pour payer pour la recherche et le développement pour des véhicules moins chers. Fait que c'est pas tout le monde. On dit pas que ça va être tous les Québécois demain qui qui doivent acheter un véhicule électrique, ça répond pas à tous leurs besoins. Ça serait pas une super.
Mais on dirait qu'on a cette impression que vous mettez la charrue devant les bœufs, comme on
non.
dit.
En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a probablement, dans les premières années, on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être 2% des Québécois qui veuillent faire ça. Puis ils l'ont fait. Avec la deuxième génération de véhicules, on s'attend peut-être à 20% des Québécois qui vont s'électrifier. Puis troisième génération, où là, vous vous dites vraiment, les prix ont baissé, on recharge très rapidement, dans environ 5 ans, si on s'attend à ce qu'il y ait peut-être 60% des Québécois qui soient prêts à passer à ça. Fait que ça va se faire graduellement, tout ça. On en parle beaucoup des véhicules électriques, mais c'est très graduel. Puis il faut quand même être capable de supporter tout ça, parce que ce qu'on veut, si on veut être capable d'être une province plus riche, on importe pour 6 milliards par année d'essence. C'est de l'argent qui pourrait rester ici. Fait que si on peut faire ça, puis revendre l'électricité, à place d'exporter l'électricité au Vermont puis au New Hampshire à 3 sous le kilowattheure, quand on le revend pour une voiture électrique pour des recharges rapides, par exemple, on le revend à 35 sous.
Oui. Puis quand ils auront le monopole, guettez-les aller avec les tarifs.
La régie de l'énergie qui...
J'y crois beaucoup à la régie de l'énergie. Ça, ce sont les gens qui m'ont dit que quand toutes les stations-service augmentent du même montant au dixième de cent près, c'est du parallélisme économique, c'est pas de la collusion.
C'est fou,
J'ai vraiment une grande foi en la régie de l'énergie pour me protéger.
Bon, tu nous
protèges. Je voudrais vous terminer en vous disant, puis je décèle chez ma collègue Myriam la même chose. J'aimerais ça avoir une voiture électrique. J'y songe même à avoir une voiture électrique. J'ai rien contre les voitures électriques. Je pense que c'est une technologie de l'avenir. Mais là où j'en ai, et là où on ne pas j'en ai, mais les réticences viennent du fait qu'on dirait qu'on est en train de subventionner des riches. Puis on n'aime pas ça. C'est socialement pas acceptable.
Ouais, mais nous, ce qu'on voit en ce moment à travers les gens qui les achètent, souvent c'est des gens qui vont faire des exceptions. Ils feront pas leur voyage dans le sud, puis ils vont économiser parce qu'ils veulent avoir le véhicule, parce qu'ils trouvent qu'ils font une bonne chose. Des familles, c'est pas juste des riches. Les riches, c'est ceux qui vont acheter les Tesla, puis les Tesla, il y en a pas tant que ça. Puis les Tesla ne sont plus subventionnés parce que au-dessus de 15 000 piastres, un véhicule n'est pas subventionné.
C'est vrai.
Fait qu'on s'est assuré que les riches, là, il fallait qu'ils payent leur juste part. Puis s'ils ont du cash pour acheter une Tesla, ils n'ont pas besoin du 3 000 ou du 8 000 piastres du gouvernement. C'est plus les familles qui en profitent. Oh, oui, absolument. On s'est assuré de ça.
Merci, M. Rioux. Puis rappelez-vous, ça prend 9 mois faire un bébé. Bye-bye. Simon-Pierre Rioux est président de l'Association des véhicules électriques du Québec. Ben oui, mais ces gens-là sont pressés. Puis il faut...
Lui, sa job, c'est d'avancer ces idées-là. Je comprends, mais le gars, on voit qu'il a le sens de l'humour puis qu'il est conscient qu'il y a quelques enjeux qui sont loin d'être réglés comme ça. Là.
Il est 13h26. Puis ensuite, je vais vous expliquer une scène étrange qui a été vue sur la rive sud ce matin.